Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les nouvelles du ciel. Et quelle nouvelle ce mois de mai, l'objectif Lune, puisque c'est le 50e anniversaire de la mission lunaire qui avait eu lieu, tout le monde s'en souvient, il y a 50 ans. Pour ça, nous avons Jacques qui va nous en parler, président de l'association Les Pléiades à la Trappe. Il est accompagné de Denis, notre astronome que l'on connaît maintenant, puisqu'il nous fait de belles émissions. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour à tous.
Mission lunaire, 50e anniversaire. Jacques, qu'est-ce qui a poussé l'homme à aller sur la Lune?
C'est une bonne question, c'est vrai. En fait, le 50e anniversaire sera exactement au mois de juillet. Mois de juillet 1969.
Mais bon, c'est l'année.
2019, c'est vrai que c'est un grand moment et très important, effectivement, pour célébrer cet événement qu'on peut dire unique dans l'humanité. C'était probablement l'événement après la découverte de l'Amérique, on va dire, par Christophe Colomb. C'est le deuxième événement, à mon avis, le plus important que l'humanité a pu susciter grâce à l'obstination... Et à la folie aussi de certaines personnes. Quoi.
Mmh. Est-ce que le but était d'aller vivre sur la Lune?
Non, alors là, le but c'était, enfin, d'après ce que l'on sait, c'était le moment de la guerre froide entre l'URSS à l'époque et puis les États-Unis. Et l'Union soviétique avait déjà envoyé le premier satellite Sputnik autour de la Terre. Et qu'il s'agissait pour les Américains de ne pas se laisser distancer et de faire quelque chose de marquant. Qui pouvait rester dans la mémoire du monde entier, en fait. Kennedy a suscité ce projet de dire pourquoi pas aller sur la Lune, ça va être difficile, ça va être cher, ça va être peut-être impossible à réaliser, mais il faut le faire. Et c'est vrai que toute la nation et le monde entier s'est mobilisé autour de cet événement, et les moyens n'ont pas manqué, les hommes n'ont pas manqué, les intelligences n'ont pas manqué. Et là, on est arrivé à ce 20 juillet ou 21 juillet 1969 où Neil Armstrong a posé le premier pas, le premier pied sur la surface lunaire. Quoi. Mm-hmm.
Et après, il y a eu plusieurs missions. À quoi ont-elles servi ces missions?
Ben, les premières missions ont servi pour valider, pour préparer cette arrivée de l'homme sur la Lune. Et après, les missions ont été suivies. Au début, il y avait 600 millions de personnes qui ont vu les missions télévisées, la plupart des postes à l'époque en noir et blanc. Donc, on suivit cet événement exceptionnel de Neil Armstrong lorsqu'il a mis le premier pied sur la Lune. Et après, les Américains ont fait ces missions-là de 1969 à 1972. Ils y sont retournés jusqu'à cette époque-là. Et c'est vrai que la guerre froide s'est un peu atténuée. Elle était déjà un peu atténuée en 69. Mais après, il n'y avait nullement besoin de se prouver l'un et l'autre les supériorités. Quoi.
Est-ce que ça a déclenché justement ce fameux voyage sur la Lune, a déclenché la découverte ou en tout cas l'envie de découvrir d'autres planètes pour pouvoir peut-être aller sur d'autres planètes, on le fait pour Mars.
Ah oui, ça c'est sûr. De toute manière, l'homme n'a toujours eu qu'une idée en tête, c'est d'aller découvrir ceux qui étaient difficiles justement à découvrir. Quoi, hein. On en revient à Christophe Colomb quand il a traversé l'océan, la mer Océane, était quelque chose d'inconnu. On longeait les côtes à cette époque-là, on n'allait pas direction l'ouest parce qu'on ne savait plus naviguer si on perdait la côte de vue. Mm-hmm. La découverte de l'espace s'est faite un petit peu comme ça aussi. Hein. On est allé sur la Lune, 400 000 km, on ira probablement dans les décennies à venir sur Mars, et puis peut-être au-delà après... Parce que en fait, c'est ce qui mobilise toujours les hommes. On n'a qu'un intérêt, on s'unit pour ces projets-là. On parle tous le même langage. Tous les scientifiques, qu'ils soient chinois, américains, russes, de n'importe quel pays, tout le monde se parle le même langage. Là, on parle humain, l'humanité. Là, les choses avancent. Voilà, oui. Il n'y a pas de concurrence. Les missions en fait de l'espace sont toutes vraiment intéressantes et poussent l'humanité en avant.
Oui.
C'est sûr. Donc il faut aller sur Mars, il faut continuer parce que c'est grâce à ces technologies-là que de toute manière que tous les hommes en profitent de ça. Mm-hmm. On se rend pas compte, mais nos téléphones portables, nos GPS, tout ça proviennent que de ces missions, que des gens qui ont travaillé pour des missions comme ça, quoi. Mm-hmm. Un peu, on va dire, voilà, un peu à côté de ce que l'on fait dans la vie quotidienne, c'est
oui.
sûr.
On sait qu'il n'y a pas d'air sur la Lune, mais est-ce qu'un jour on pourrait envisager d'y vivre ?
Ah ben oui, sur la Lune, il n'y a pas d'air, c'est sûr, mais bon, sous l'eau non plus, il n'y a pas d'air, et on respire. Je veux dire, voilà, c'est un peu pareil, quoi. Donc sur la Lune, on peut y aller, on pourrait y retourner, mais si on avait gardé, en fait, le savoir-faire de ces années-là, de ces missions-là, eh bien là, 50 ans après, vous imaginez que l'homme irait passer des week-ends en famille sur la Lune, partirait le vendredi soir, reviendrait le lundi matin pour aller au bureau. Je pense que ça aurait été très facile, oui. Enfin, maintenant, avec les technologies nouvelles et toutes ces entreprises privées qui se lancent même dans l'épopée spatiale, on va dire. Oui, oui, on pourrait aller. Si on avait gardé les technologies, on irait sur la Lune assez facilement maintenant. Bon, ce n'est pas le cas, puisqu'on a laissé tomber un peu ça, croyant qu'effectivement, ce n'était pas très utile. Mais maintenant, ça risque de relancer, puisque les Chinois s'y intéressent avec les...
Oui.
aussi. Donc, eux, se mettant dans la course un petit peu, ben, ça va inciter les autres nations, les USA en tête. L'Europe aussi, il faut s'accrocher aussi un petit peu. Il ne faut pas laisser ces distances se faire.
Oui.
S'intéresser à notre satellite, quoi, qui n'est pas très loin, accessible, tout le monde le voit, on le connaît... pas complètement, mais bon, il y a beaucoup de choses à faire sur la Lune.
Denis nous avait dit lors d'une émission justement que la Lune était statique, qu'elle ne bougeait pas. Mmh. Si on pouvait y vivre, ce ne serait que sur la face que l'on voit. On ne pourrait pas vivre éternellement dans la nuit.
La face cachée est éclairée aussi, hein.
Ah, la face cachée est éclairée.
Elle est éclairée,
alors,
oui.
J'ai peut-être pas tout retenu.
Ouais, mais... Non. La face cachée, bon, au niveau de la lumière, si vous voulez, le problème, c'est que la journée dure 14 jours terrestres. Et la nuit, 14 jours. C'est-à-dire que quand on dort, il faudrait dormir pendant 14 jours. Voilà, puisqu'elle tourne en fait en un mois à peu près sur elle-même.
D'accord.
Mais bon, après, c'est vrai que se placer, construire une habitation lunaire sur la face visible, fait qui est face à la Terre, ce serait plus facile au niveau des communications que non pas sur la face cachée, où là, c'est un peu plus compliqué pour communiquer, du moins.
Oui, oui.
Pour se faire au bonjour, il faut passer par
d'autres
satellites.
Moyens.
Voilà, un peu plus compliqué. Ce qu'ont fait les Chinois, d'ailleurs, en janvier là, de cette année.
D'accord.
En janvier 2019, ils ont posé un robot, enfin une sonde là, sur la face cachée effectivement, de la Lune. C'est un peu plus compliqué que le reste.
Oui.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le mouvement de rotation de la Lune est compensé par son mouvement de révolution. C'est-à-dire qu'il y a une synchronisation. Et de ce fait, on voit toujours la même face de la Lune. C'est pour ça.
Bien.
Et c'est pour ça qu'on parle de face cachée, quoi.
Oui.
Qu'on ne voit jamais.
Justement, pour voir cette fameuse Lune, d'ailleurs, vous avez fait une exposition aux Pléiades à la Trappe, il y aura d'autres missions comme ça qui vont se faire, il y aura des conférences, il y aura plein de choses.
Oui, oui, toute cette année, c'est vrai que jusqu'au mois d'août, on va essayer de bâtir toutes nos activités autour du 50e anniversaire de l'Homme sur la Lune. Donc, des grandes conférences le 10 mai au Balcon des Étoiles avec Béatrice Sandré qui va nous parler en partie de la Lune, mais aussi sur l'univers en général et sur la vision de l'univers au fil des peuples et de l'humanité. Et le 15 juin, Serge Chevrel, qui est un passionné astrophysicien des missions lunaires, des missions Apollo, viendra nous expliquer, nous parler de cette fameuse épopée des missions Apollo de ces années-là, quoi.
Oui.
Et après, donc, plusieurs événements que l'on organisera au Balcon des Étoiles, où le 12 et 13 juillet, on proposera aux personnes de venir observer la Lune.
Oui.
Chez nous, sur des activités ouvertes et gratuites, comme les conférences d'ailleurs.
Oui.
Le 14 août, la nuit de la belle étoile, traditionnellement organisée à ce moment-là, donc sera en partie consacrée
à la lune aussi,
l'astre de nos nuits. Les séances de planétarium, donc tous les dimanches à 17h, que l'on propose à partir de ce mois de mai, mai, juin, juillet et août. Et des soirées que l'on trouvera sur le site... des soirées avec ou sans repas que l'on organise donc tout le temps, toute l'année.
D'accord. Voilà. Dans le site, c'est les Pléiades et on y tombe tout de suite.
Voilà. Balcon des Étoiles, peut-être,
voilà.
On va tomber.
Oui,
voilà.
Aussi.
Voilà.
Mais si on fait les Pléiades, je l'ai essayé, ça marche.
Bon, c'est vrai.
Denis, vous allez nous parler des instruments, puisqu'on parle de regarder la Lune à la Trappe, il y a des instruments. Comment ça a commencé un instrument ? Comment on a pu inventer, encore là, on le disait tout à l'heure, un phénomène qu'a inventé l'homme pour pouvoir regarder très loin.
En fait, le premier instrument est l'œil.
Oui.
Pour l'œil, c'est un formidable outil naturel hein, qui est constitué d'une pupille, d'un cristallin, d'une rétine, d'un nerf optique. Et chacun de ces éléments joue un rôle bien particulier. Et on peut faire une similitude justement avec les instruments optiques que nous utilisons à l'heure actuelle.
Mmh. Hein.
C'est-à-dire que le rôle en fait de la pupille de l'œil, c'est de jouer le rôle en fait de diaphragme naturel et qui s'autorégule en fait en fonction de l'intensité lumineuse.
Mmh.
C'est-à-dire pendant les phases diurnes, c'est-à-dire pendant le jour, on a une intensité lumineuse qui est relativement importante hein, grâce à la présence notamment du soleil, un éclairage important, l'œil va s'auto-protéger en fermant ce diaphragme et la pupille tournera autour de 1 mm en fait, de diamètre, hein, de telle sorte à pouvoir freiner le rayonnement qui accéderait au cristallin
oui.
hein, qui se situe après. Et de telle sorte à ne pas agresser aussi la rétine qui est située au fond du globe oculaire, mm-hmm. en fait. Hein. C'est la même chose hein, quand vous êtes chez vous, pendant une belle période d'été, vous avez votre fenêtre qui est exposée plein sud, vous avez le soleil, les rayonnements solaires qui rentrent dans la pièce est éblouie, alors qu'est-ce que vous faites ? Ben, vous avez le réflexe de fermer les volets.
Oui, voilà. On serre les volets. C'est
voilà. Eh bien, le rôle justement de la pupille de l'œil, c'est de jouer ce rôle-là, c'est de diminuer la quantité de lumière en fait, qui pénétrerait par le cristallin.
Mmh.
Et à fur et à mesure que le soleil descend à l'horizon, eh bien, nous nous rapprochons dans une phase nocturne. Là, la pupille, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, au contraire, elle se dilate. Là,
oui.
hein, elle augmente pour atteindre les 6 mm de diamètre. Mais bon, avec l'âge, hein, surtout autour de la cinquantaine, on a du mal à atteindre l'ouverture des 6 mm. Ça tourne autour de 5, voilà. Ça permet là d'ouvrir les volets de telle sorte à ce que le maximum de lumière
oui.
puisse rentrer.
Oui.
Ensuite, on a le cristallin. Alors, ce qu'il y a de formidable avec le cristallin, eh bien, c'est en fait la lentille de l'œil. Le rôle du cristallin, c'est de pouvoir canaliser en fait ce rayonnement qui provient de l'extérieur et de le focaliser en fait sur un récepteur qui est la fameuse rétine. C'est réellement important ça. Pourquoi ? Parce que quand on veut observer le soleil, quand on veut observer la lune, surtout en pleine lune avec justement des gros instruments, eh bien la quantité de lumière collectée est telle que l'œil il peut être agressé justement par cette quantité de lumière. D'où la nécessité d'utiliser des filtres, soit des filtres solaires pour observer le soleil,
oui.
soit des filtres lunaires pour observer la lune, surtout quand elle est pleine. Hein. Parce mm-hmm. que quand elle est pleine, c'est là où on a le maximum d'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant en fait, de la lumière provenant d'un astre. Hein, parce que
oui.
je vous rappelle que la Lune, comme les planètes, ce sont des corps qui sont morts, qui ne font que réfléchir la lumière d'une étoile située dans l'environnement. Et nous recevons toute cette lumière. Quoi. Alors évidemment, plus les planètes, les astres morts sont loin, et plus la quantité de lumière est en quelque sorte petite.
D'accord.
Donc dans ces cas-là, on n'a pas besoin, je dirais, d'utiliser des filtres protecteurs.
Et c'est grâce à l'œil que les instruments ont été inventés ?
Non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est vrai qu'au départ, il y a beaucoup de scientifiques qui faisaient de la médecine. Hein. À l'époque, hein, au Moyen-Âge, beaucoup de scientifiques étaient pluridisciplinaires. Hein. Il y en a qui faisaient des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la médecine, de la philosophie. Et à fur et à mesure que les sciences ont évolué, eh bien, on a créé des spécialités. À une époque, il y avait des médecins généralistes, hein, des médecins généralistes qui s'occupaient de n'importe quelle organes. Et ensuite, il y avait des médecins spécialistes du cœur. Et progressivement, on a des médecins qui sont spécialistes d'une partie du cœur ou de certaines viscères. Il faut remonter quand même à l'époque de l'Antiquité. Hein, chez les Chinois, hein, c'est eux qui ont utilisé à l'époque les premiers cristaux pour voir à travers justement les astres. Mais le principe même de la lunette astronomique, il faut remonter à 1550. C'est un Anglais, hein, d'après les écrits. Hein,
oui.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à tirer la couverture à soi en matière de découverte. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'invention de la lunette astronomique est européenne. Voilà.
D'accord.
Alors là-dedans, ben, vous mélangez les Anglais, les Hollandais, les Italiens, chacun essaie de défendre son invention, sa découverte. Mais il faut remonter à 1550. C'est Leonard Dagges, selon ses écrits, qui aurait commencé à créer le principe même de la lunette. Après, autour de 1608 exactement, il y a un Hollandais. Qui est Hans Lippershey, qui a créé un modèle, un prototype. Ça a été sur la même période suivi par un Italien également. Tout ça, il y a une convergence des idées de création de lunettes, surtout sur cette époque-là, quoi.
Mm-hmm.
Maintenant, il y a une chose importante, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le cadre de l'astronomie, on distingue la lunette astronomique, qu'on appelle un réfracteur,
oui,
et le télescope, qui est un réflecteur. Le réfracteur, lui, c'est-à-dire la lunette astronomique, est composé uniquement de lentilles. Il y a une lentille principale en tant qu'objectif, et puis il y a un système de lentilles au niveau de l'oculaire, hein, là où on place l'œil.
Oui.
Par contre, un télescope réflecteur, c'est un système qui est composé d'un jeu de miroirs. On retrouvera également des lentilles au niveau de l'oculaire, qui est des lentilles qui permettent de pouvoir agrandir en fait l'image.
Oui.
Mais il y a une chose très très importante en astronomie, c'est que plus le diamètre de l'instrument est important, hein, que ce soit lentille ou miroir, hein, plus le diamètre est important et plus il capturera de la lumière.
Oui.
Ça, c'est important. C'est pour ça que c'est un peu, je dirais, la course aux instruments entre les pays pour construire le télescope dont le diamètre sera le plus grand. Hein. Là, on a affaire surtout à des constructions de télescopes, hein, parce qu'à diamètre équivalent, le diamètre d'un miroir est beaucoup moins onéreux, d'accord, qu'une lentille.
D'accord.
C'est pour ça que la plupart des télescopes à l'heure actuelle, enfin des instruments, je veux dire, sont des télescopes constitués donc de miroirs. Hein.
Oui.
La lunette la plus grande au niveau international, eh bien Cocorico, c'est en France. Ça a été exposé lors de l'exposition universelle en 1900, mais malheureusement, cette lunette elle a été démontée. Par contre, on a conservé les lentilles donc, à l'Observatoire de Paris.
Mm-hmm.
Des lentilles dont le diamètre fait 1,50 m à peu près. Hein.
Ah,
donc
oui,
c'est quand même considérable. Après, il y a une grande lunette, toujours en France, qui est celle de l'Observatoire de Meudon, qui est classée troisième au niveau international, dont le diamètre fait 80 cm de diamètre pour une longueur de tube qui fait presque 17 mètres. Hein. Vous imaginez l'instrument. Mais en fait, c'est deux lunettes qui sont superposées, parce qu'en fait, il y a deux systèmes d'optique, deux lentilles qui sont superposées, mais dans le même instrument.
Oui.
C'est à l'Observatoire de Meudon. Hein. On ne peut plus visiter cet instrument à l'heure actuelle parce que suite à la dernière tempête qui a eu lieu donc en 99, eh bien malheureusement ça a impacté justement la structure de la coupole. Il y a beaucoup de travaux de rénovation. Alors tout ça, bien sûr, ça demande un certain investissement. Voilà. Voilà les deux grandes classes d'instruments,
oui,
les lunettes astronomiques et les télescopes. Mais, chose importante, il faut attendre 2025 pour que le plus gros télescope du monde voit le jour. Ça sera au Chili, à l'Observatoire européen austral. Donc là, c'est le concours de la plupart des États européens, de la construction d'un télescope dont le miroir fera 39 mètres de diamètre pour un poids total de 2800 kilogrammes.
Deux
tonnes, un peu plus, 2,8 tonnes exactement, dans une coupole qui fera pas loin de 80 mètres de diamètre
énorme.
Sur 79 mètres de hauteur. Voilà.
Ah oui, quand même, c'est énorme.
On pourrait quand même insister pour qu'il soit installé au balcon des étoiles. Ça serait quand même pas mal.
C'est vrai, c'est vrai. Alors justement, revenons-y au balcon des étoiles. À la trappe, vous avez quoi? Vous avez de tout? Vous avez des lunettes et des télescopes?
Alors il y a de tout. Il y a des lunettes astronomiques. Il y a beaucoup de petites lunettes astronomiques destinées aux classes du primaire, notamment. Les petites classes, parce qu'il n'y a pas d'âge hein, pour faire de l'astronomie. Sur le plan de vue pédagogique, c'est génial, parce que les petits peuvent manipuler ces petites lunettes. Et sinon, ben, ça va jusqu'à un télescope qui fait 35 cm de diamètre.
Mmh. Oui, en fait, le télescope voilà, qui fait 355 effectivement, mm, qui est installé donc dans une coupole fixe. Après, il y a un télescope mobile qui nous est prêté en fait, par une autre association qui fait 500 mm donc de diamètre que l'on peut sortir. Mais c'est un autre modèle, c'est un télescope qui mérite qu'il faut utiliser manuellement. Mm-hmm. Alors que l'autre, il est un peu automatisé, quoi.
D'accord.
Et celui, le 500, il est un peu plus lourd, un peu plus délicat à sortir. Il faut prendre un peu plus de précautions. Mais après, c'est vrai que l'idéal pour nous, enfin, au balcon des étoiles, c'est d'avoir effectivement... on projette en fait d'avoir des télescopes de plus gros diamètre, effectivement, dans un proche avenir d'ailleurs, hein, pour avoir de meilleures images, et comme disait Denis, donc une meilleure vision du ciel. Voilà.
Et les gens viennent et ils veulent aussi avoir du beau.
Ah ben bien sûr.
C'est
tout à fait normal.
Non,
mais c'est normal.
Le site de la trappe.
Oui. Oui, c'est www.les-pléiades.asso.fr.
Si on veut avoir un conseil, si on veut vous demander pour venir avoir un rendez-vous, on vous appelle aussi ? À quel numéro ?
Oui, c'est le 05 62 23 21 13. Pour notre programme avec d'activités, donc comme on le disait au début de l'émission, c'était autour il y a toutes ces dates qui sont à retenir. Les autres, on peut les trouver sur le site internet. Après, c'est vrai que pendant la période scolaire, jusqu'à fin juin, nous allons recevoir pas mal de classes quoi, locales, mm-hmm. Ou même d'ailleurs, hein, qui viennent visiter soit le Pic du Midi, soit la Cité de l'Espace, et qui passent donc par chez nous obligatoirement, mm-hmm. C'est le passage donc obligé. Et après, des classes locales qui peuvent venir à la journée, bien entendu, pour venir voir cette exposition sur la Lune.
Oui.
On peut aussi organiser, nous faisons déjà autour de ça des activités où les enfants réalisent, comme expliquait Denis, une petite lunette. Ce sont des lunettes donc à fabriquer soi-même. On appelle ça des lunettes de Galilée. On s'était largement inspiré donc de l'invention de ce scientifique-là. Hein. Et les enfants repartent avec une lunette de Galilée chacun. Après, il y a des micro-fusées que l'on peut proposer sur place, qui est une activité qui se rapproche un peu de tout ce qui est conquête spatiale et l'épopée, exactement, voilà.
Quelque chose d'important, c'est de dire à nos auditeurs que ce mois-ci, c'est Mars qui est à l'honneur dans le ciel.
Oui, dans le ciel du soir, oui, Mars, elle est encore visible parce que c'est une planète qui ne nous lâche pas.
Et oui.
Elle était au plus près de la Terre en juillet 2018. En opposition quand elle est au plus près de la Terre. Et là, Mars, elle refuse de se coucher. En fait, elle se déplace.
Oui.
Son déplacement apparent dans le ciel, donc, l'amène effectivement à être toujours visible encore actuellement. Mais malheureusement, elle s'éloigne aussi, ou la Terre s'éloigne aussi d'elle, quoi, on va dire. Hein. Et c'est quand même assez difficile pour observer, on va dire, des reliefs sur la planète Mars, quoi.
Avoir aussi quelques étoiles filantes. Et ensuite, à l'aube, ce sera Vénus que l'on pourra voir. Saturne, Neptune, c'est visible encore?
Alors, la prochaine planète à observer, c'est Jupiter, par contre. Hein, la plus grosse planète du système solaire, donc, qui apparaît en deuxième partie dès minuit.
Ah oui.
Dès minuit, 1h du matin.
Mais là, on dort.
Ah non, pas les astronomes. Ah, quand on fait de l'astronomie, soit on se couche tard, soit il faut se lever tôt.
Alors justement, pour faire le rapprochement avec les lunettes et Galilée, donc en 1609, Galilée pointa une lunette en direction de Jupiter. Et là, il voyait des petites étoiles autour, qui sont en fait ses satellites. Et depuis, on les appelle les satellites galiléens.
D'accord, voilà. Ah ben c'était intéressant. Si on veut tout connaître du ciel, on vous appelle, on va sur votre site, on vous appelle pour pouvoir venir découvrir et s'instruire des étoiles. Merci beaucoup Denis, merci beaucoup Jacques.
Oui, merci à toutes et à tous.
Merci à vous.